Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
En 1981, à Avignon, ce lycéen est pris, dira-t-il, d'une violente bouffée de délinquance. Avec un copain, raconte l'Express, ils sont fascinés cette année-là par des films de gangsters, notamment par Le choix des armes d'Alain Corneau. Inspirés, ils décident à leur tour de commettre quelques braquages. Dans une armurerie, le premier se procure un revolver et il braque un premier bureau de tabac. Suivent des pharmacies, bureaux de poste, en tout une douzaine d'attaques à main armée en moins de 6 mois. Le dernier braquage se termine par des coups de feu, un policier est blessé à la jambe. Le jeune Christian Laplanche est alors arrêté par les gendarmes d'Arles au cours de l'été 1982. Un juge d'instruction qui le suivra et le soutiendra toute sa vie durant l'inculpe alors pour vol aggravé en réunion et tentative d'homicide. Dans le même temps, il l'encourage à passer son baccalauréat, ce qu'il fait avec succès. Au bout de 14 mois de détention provisoire, Christian est libéré. Fin 1987, la cour d'assises d'Aix-en-Provence le condamne à 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis. Mais le parquet fait appel devant la cour de cassation. Le braqueur est condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. Il retourne en prison pendant un an, durant lequel il rédige un mémoire de DEA. Au bout de 3 mois, il bénéficie d'une libération conditionnelle et c'est à ce moment-là qu'il se met en tête de devenir avocat. La bataille avec les études puis avec le barreau pour se faire accepter est homérique. Elle durera plus de 5 ans, au terme desquels, en septembre 2004, l'ex-taulard est enfin autorisé à plaider à Nîmes. Une reconversion aussi radicale et étonnante que celle que vous pourrez entendre tout de suite dans Les Pieds sur Terre, l'histoire de Laetitia, une ancienne médecin devenue bouchère qui vit seule avec sa fille de 6 ans et son chat dans un logement social au 17e étage d'une tour de Reims. C'est un récit de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je voulais être pilote de chasse. J'avais un papa qui était dans l'armée et il me disait toujours « Ouais, il n'y aura jamais de femme pilote de chasse parce qu'on est embêté avec les maternités, donc il n'y aura jamais de femme pilote de chasse. » Donc ça m'avait un petit peu déboussolé. J'ai quand même fait une carrière scientifique au lycée. Je suis partie sur un bac S. Et donc, au sortir, j'avais mon bac avec mention Et du coup, comme je savais que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer des études en dehors de Reims, j'ai cherché un cursus sur place. Et bah, du coup, je me suis dit, pourquoi pas médecine, après tout. Donc j'ai commencé la médecine ici. Alors moi, ça a toujours été la médecine générale. Parce que déjà, je ne me voyais pas faire une spécialité. J'avais besoin de maîtriser un petit peu tout et puis d'avoir ce contact de médecin de famille, quoi, d'être proche. Voilà. Donc j'ai commencé mes premières années. Alors c'est tout nouveau, le travail de manière autonome, ces grands amphis avec des stages à l'hôpital. On a des stages obligatoires en deuxième cycle. Donc moi, dans mes stages, je me suis arrangée pour avoir un peu de tout. Parce que je voulais être médecin généraliste, donc dans ma tête c'était clair, il fallait que je sache gérer un peu tout. Donc je suis passée en cardiologie, je suis passée à l'accueil des urgences, je suis passée en endocrinologie, en rhumato, en néphro, il y a peut-être la pneumo peut-être que j'ai pas pu avoir. J'ai fait mon stage volontairement en gynécologie parce qu'il y avait des places. Après, donc, j'ai continué par la chirurgie orthopédique. Ça avait mal commencé. Hein. On a fait une prothèse de genou. Et pour éviter la contamination sur le site opératoire, quand on fait des grosses prothèses comme ça, on met un scaphandre. Donc on s'habille et on a un système de ventilation. Et donc c'était ma première grosse intervention avec en plus mon professeur. J'étais très impressionnée et en même temps très fière. Et le problème, c'est que je ne m'étais pas rendu compte que mon alimentation en air dans le casque ne fonctionnait pas. Donc je suivais très attentivement l'intervention et je voyais la penseuse qui s'agitait de l'autre côté, qui me disait « sors, sors, sors ». Et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, apparemment, je devenais toute blanche, je manquais d'air et j'ai eu juste le temps de sortir, je me suis effondrée par terre. Voilà, c'est un souvenir assez mémorable. Après ça, comme j'ai toujours eu ce goût pour la médecine générale, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon dernier stage, cette fois chez le praticien. Donc là, je travaille avec un confrère dans son cabinet médical. Et je trouvais que c'était pas mal parce que à l'hôpital, on a presque tout de suite au niveau des examens. Il y a un certain confort. Et du coup, l'approche est un peu différente, quoi. Moi, j'avais 2 maîtres de stage, j'étais sur 2 cabinets différents. Et donc, c'est vraiment là que j'ai appris mon métier de médecin généraliste. Alors, en juillet 2003, dès que j'ai eu terminé mon stage chez le praticien, j'ai enchaîné parce que il avait le droit à un peu de vacances. Et puis, ça m'a permis de faire mes premiers pas. Et donc, je l'ai remplacé sur son jour de repos, 1 jour par semaine, voilà. Et puis, ses collègues du cabinet ont trouvé le système pas si mal que ça, ce qui fait que j'ai fini par remplacer chaque médecin sur son jour de repos et que ça finissait par me faire des semaines de travail régulières, en fait. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ans et demi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les patients commençaient à me connaître. Après, l'organisation du cabinet a changé un petit peu. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion, du coup, d'aller faire un peu de médecine en semi-rural. En rural, ça prend une dimension un petit peu différente parce que c'est plus 4-5 km qu'on a à faire, c'est 15-20. Et qu'il y a vraiment la notion de tournée pour faire les visites. Et c'est l'ambiance campagne. Et un patient, pour vous remercier, vous offre un canard. Voilà. Donc, j'avais jamais cuisiné de canard, mais j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, sur les derniers remplacements où on commence à connaître les us et coutumes des patients, il se crée vraiment un lien. Et puis, je me projetais carrément dans mon bureau. Je voyais les affaires que j'allais ramener de chez moi dans mon cabinet, mes livres de médecine qui étaient dans mon bureau, je voyais où les mettre. Je mettrais mon lit d'examen comme ça, je mettrais mes outils comme ça parce que ça, c'est pas pratique. On se projette. Et puis, j'avais ce médecin-là qui partait en retraite. J'étais dans un cabinet où je m'entendais bien avec mes collègues et où l'exercice me plaisait. Pour moi, ça y est, je m'installais. Donc en fait, pour finaliser les études de médecine, on doit passer la thèse. C'est une thèse d'exercice qui permet de nous faire passer du statut de médecin au statut de docteur. Il y a un délai de 3 ans à partir de la fin des études pour faire cette thèse. Et en raison de problèmes familiaux, je divorçais. Donc un divorce qui était un peu compliqué, donc je n'ai pas pu faire cette thèse dans les délais. N'ayant pas encore passé ma thèse, le conseil départemental de l'ordre m'avait donné une licence d'exception pour aller jusqu'à la reprise du cabinet médical. Mais c'est une licence nominative et dépannant un collègue autre, donc on m'a repris ma licence d'exception et du jour au lendemain, j'étais en exercice illégal de la médecine.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc, ça a été un petit peu difficile à vivre, hein, parce que du jour au lendemain, ben, on n'est plus rien. Et 8 années de formation ne valent plus rien. Et malheureusement, malgré mes tentatives d'explication auprès du Conseil départemental de l'Ordre, je n'ai jamais réussi à avoir un entretien avec le président. Il y a un coup près qui tombe et c'est comme ça. Et on ne cherche même pas à savoir ce que va devenir la personne. Donc c'est vrai que cette sanction-là, je ne l'ai pas comprise. Je l'ai acceptée à contre-cœur. Donc il faut quand même un bon bout de temps pour que j'arrive à déculpabiliser, que j'arrive à remettre les choses dans l'ordre. Et en fait, une fois que ça va mieux, là je dis c'est bon, je me réinscris en fac et je rattaque cette thèse, c'est pas grand chose. Donc je me relance dans l'aventure et au moment où je désire faire mon inscription, on me dit mais ça va pas être possible. On m'explique qu'il y a un décret qui est sorti et que je ne peux plus soutenir ma thèse. Alors là, à nouveau effondré, et puis quand même, avec cette chance d'avoir le docteur Schlinger parmi mes connaissances et qui est au conseil départemental, et je lui pose la question, je lui dis « Écoute, je ne peux plus avancer au niveau thèse, j'ai pu m'inscrire, mais là, on me dit que je suis privée de thèse, je ne comprends pas. » Et donc, en grattant un peu, on se rend compte qu'il y a effectivement un décret qui a été voté en 2004. Donc, on est en 2013, on découvre ce décret-là et on commence à en parler autour de nous et on a l'impression que tout le monde le découvre un peu et découvre une date butoir, fin 2012, pour les résidents, pour terminer leur cursus. Et visiblement, personne n'a été informé. Et si la fac a été informée, elle n'a pas répercuté du tout l'information. Donc, il y a un tas de personnes comme moi qui sont bloquées, tous en exercice illégal de la médecine, avec des gens qui ont fait un cursus jusqu'au bout, qui ont un certificat de synthèse clinique et thérapeutique, donc qui sont reconnus médecins au niveau connaissance, mais qui ne peuvent absolument pas exercer. Et alors là, c'est l'incompréhension totale. Et donc, j'ai contacté le doyen de la faculté. Je demande qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à cette chose-là, s'il y a moyen d'envisager un autre cursus. Il me répond clairement qu'il en a informé le service juridique de la fac et que non, il ne peut rien faire et que c'est fini. La médecine, pour moi, c'est fini. J'ai fait 6 années d'exercice à temps plein et à peu près 8 mois de semi-rural. Il fallait quand même envisager un petit peu l'avenir parce que, ayant été profession libérale et sans activité depuis un moment, je redémarrais vraiment avec rien du tout, avec un divorce qui était un peu compliqué. Et après le divorce, j'avais 3 mois. Pour me trouver un logement avec ma fille qui à l'époque avait 3 ans. Et donc je suis allée faire un dossier donc, de logement social et je suis allée voir une assistante sociale et on m'a dit il faut absolument que vous travailliez un minimum pour qu'on puisse au moins avoir donc, ce qui était à l'époque le RSA socle majoré pour que vous puissiez avoir un toit. Et donc, j'ai été voir Pôle emploi. Et donc, ils ont pris mes antécédents professionnels. Sur la fiche, ils m'ont mis médecin. Et au bout de quelques semaines, je leur ai dit, ça va pas, médecin, je vais pas pouvoir trouver quelque chose. J'ai essayé de faire des demandes en aide-soignante dans des maisons de retraite. On m'a répondu qu'il fallait absolument le diplôme d'État, alors que bon, j'ai largement les compétences. Donc je me suis dit, bon, on va quand même essayer d'aller voir au niveau de l'école d'infirmière si je ne peux pas tenter quelque chose. Et effectivement, au niveau de l'école d'infirmière, il y avait une possible passerelle, mais ça sous-entendait repasser deux unités de valeur, dont un diagnostic infirmier, refaire des stages dont j'étais pas sûre qu'ils soient rémunérés, et débourser quand même 8000 euros à l'année. C'était absolument impossible. Et puis, ça reste encore l'interrogation de quelqu'un qui lit mon CV. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ? Une anecdote du directeur de Leclerc, où j'avais quand même préparé un CV, une lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, c'est vrai que c'était difficile d'expliquer pourquoi je venais travailler chez eux. Et quand j'ai vu le directeur pour la première fois, il m'a regardé en souriant, il a dit « Mais vous, c'est pas des bagages que vous avez, c'est des mâles. » Et je lui dis « Mais oui, mais bon, en attendant mes mâles, il faut que je les pose quelque part et que je travaille. » Voilà, c'est... Et je pense que c'est pas facile, peut-être, de gérer un salarié avec un bac à ce niveau-là. Cette différence de statut, je pense qu'elle est plus un problème pour eux que pour moi. Donc je suis retournée voir Pôle emploi, je leur ai dit, moi je dis, il faut que vous me trouviez quelque chose, je dis n'importe quoi, je suis prête à faire n'importe quoi, mais j'ai besoin d'un travail pour m'en sortir, j'ai besoin, j'ai ma fille. L'agent à Pôle emploi a très bien compris ma situation et elle a dit, je vais voir, je dois avoir dans mes contacts quelqu'un qui peut peut-être vous aider. Et elle dit, je vous garantis pas un super poste. Je dis, c'est pas grave. Donc elle m'a envoyé à une de ses connaissances que j'ai vue en entretien. J'y allais au départ pour faire des animations en grande surface, puisque c'est ce que j'avais fait en étant étudiante. Il m'a dit, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de vous avoir sur un poste de rayon traditionnel en alimentaire. Alors, je dis, mais j'ai jamais fait ça. Il me dit, mais je pense que vous en sortirez. Je vous verrai bien, j'ai un poste en charcuterie, est-ce que ça vous tente ? Alors je dis, bah, on y va. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la charcuterie. Donc j'ai remplacé quelqu'un donc, sur la charcuterie et j'ai été basculée après sur la crèmerie, pareil, pour remplacer quelqu'un qui était en accident de travail. Et bah, j'ai fait mes armes donc, dans la grande distribution, dans ces deux rayons-là. Et puis, ben ça s'est bien passé, ça m'a plu, si bien qu'à la fin du remplacement, quand j'ai quitté le magasin, j'ai dit, bon ben là, apparemment, il y a du travail dans ce secteur-là, on va continuer à prospecter en attendant qu'on trouve une solution pour la carrière médicale. Et donc, j'ai travaillé en boutique, dans la boutique d'un meilleur ouvrier de France. Donc moi, j'avais 40 ans, je démarrais boucher et j'avoue que j'ai eu un stress monstrueux parce que j'avais vu effectivement que le responsable était meilleur ouvrier de France. J'avais très envie de le faire et je me dis, mais je ne serai jamais à l'auteur. Et quelques personnes dans mon entourage qui rigolaient, mais t'as été médecin. Je dis oui, mais c'est un domaine complètement différent et est-ce que je vais savoir ? Voilà, c'était ce stress-là à l'entrée et là j'ai vu tout le côté artisanal. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à couper du jambon à l'os sur une griffe, comment présenter un plat, comment servir un client, comment faire un beau paquet. La façon de présenter un friand dans une vitrine, c'est rien, mais quand vous avez le coup de feu juste avant l'ouverture et puis que ça y est, on ouvre les portes, les clients arrivent et vous voyez votre rayon magnifique. Et puis ben, après, c'est comment présenter une épaule d'agneau, le gigot, le désossé, le semi-désossé, faire les rôtis, faire les paupiettes... Apprendre les petits morceaux tendres aussi, en dehors du rump steak et du filet. Il y a plein de petits morceaux qui peuvent être super tendres. C'est une pure merveille. C'est un métier très riche. Puis C'est peut-être aussi mon goût pour la chirurgie au départ. Quand je rentrais de la fac et que je racontais un petit peu ma famille, ah ben tiens, aujourd'hui on a fait telle intervention, et on me disait, oh non, arrête, arrête. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, on est beau. Les organes, c'est beau. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours frappé, c'est quand on fait par exemple une célioscopie, hein, quand on va examiner les organes, c'est un beau rose, c'est régulier, c'est brillant, ça vit. Et quand j'ai désossé ma cuisse de bœuf, j'étais pas perdue, parce que on retrouve l'os du bassin, on retrouve le fémur, on retrouve les mêmes masses musculaires avec des fonctions assez similaires, hein, on n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir regrimper les échelons. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, être simple vendeuse, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu plus. Ça m'a aidé à passer un cap, mais j'avais besoin, à mon tour, de concevoir. C'est cette passion que j'ai vue chez ce meilleur ouvrier de France. J'ai eu envie aussi de toucher ça, de créer. Et donc, je suis retournée voir Pôle emploi et je leur ai dit, finalement, je me plais pas trop mal dans cette branche-là, mais j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Et donc, ils m'ont proposé, donc, bah, écoutez, on a des formations, hein, et en ce moment, on forme des bouchers. Et bah, finalement, j'étais assez impatiente et j'ai dit, OK, pour la boucherie. J'avais besoin de ça pour me prouver que j'étais capable de réapprendre quelque chose. Et la boucherie peut être une petite revanche sur mon histoire personnelle. Donc je me suis relancée là-dedans. Et donc j'ai fait un contrat de professionnalisation en boucherie avec Pôle emploi. Et donc le principe, c'était de repartir pour 10 mois en apprentissage avec un formateur boucher une fois par semaine et le reste en entreprise au rayon boucherie d'une grande surface. Donc tout s'est bien passé, j'étais orientée dans un magasin à une trentaine de kilomètres de chez moi en boucherie et ben, j'ai démarré ma nouvelle vie de boucher. Et la plus grande satisfaction, en fait, après ce mois de formation théorique, c'est de se retrouver devant sa table avec un désosseur, donc c'est le petit couteau du boucher pour désosser, devant sa cuisse de bœuf, qui est d'un poids monstrueux et qu'il faut savoir mettre sur la table, et d'enlever le premier os, sortir le fémur, et on se dit là, c'est bon, j'ai gagné, moi 1, le bœuf 0.
Ça ne vous a pas effrayé quand Pôle emploi vous a proposé de travailler dans la charcuterie fine, alors que vous étiez médecin à la base?
Je ne vais pas dire non, mais il faut avancer. J'ai ma fille, elle a besoin de moi, elle a besoin que je travaille pour la nourrir. Il y a quelque chose après. Peut-être que ça changera, peut-être qu'au niveau des lois, il y aura quelque chose de fait, ça serait bien, et pour moi, et pour d'autres médecins dans ma situation. Mais ça peut prendre du temps, c'est des lois, on ne les change pas comme ça du jour au lendemain. On peut, mais la plupart du temps, ça prend des années. Est-ce que je vais rester des années à regarder ce que j'aurais pu être, ou est-ce que je me tourne vers autre chose et que je découvre autre chose? C'est une nouvelle expérience avec toutes les bonnes choses qu'elle peut apporter. Pour moi, ça vaut le coup d'être vécu. C'est pas du temps de perdu. C'est pas du temps de perdu.
C'était l'histoire de Laetitia Boucher, un reportage de Valérie Borst réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à Laetitia, ainsi qu'au docteur Schlinger. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Camille Richir, notre stagiaire. Et c'est Anne-Laure Chanel qui s'est occupée de cette rediffusion d'une émission qui avait été diffusée sur nos antennes pour la première fois le 14 juin 2016.